Et le journal est présenté par Alexandra Duboucheron. Bonjour Alexandra.
Bonjour à tous. De la Sibérie à l'Allemagne, Alexei Navalny a atterri ce matin à Berlin. On sera sur place dès le début de ce journal. L'opposant russe est toujours dans le coma. Ses proches dénoncent un empoisonnement. Son état est stable selon l'ONG qui a organisé le transfert. En France, le report de la présentation du plan de relance de l'économie, ça devait être mardi, ce sera finalement début septembre, on l'a appris par communiqué tout à l'heure. Sans commentaire de la part de Jean Castex, le Premier ministre était en déplacement dans la Somme ce matin, vous l'entendrez. Dans ce journal encore, Paris sous haute surveillance demain et des Champs-Élysées piétons pour le match du PSG en finale de Ligue des Champions. La Ligue des Champions qui se décline aussi au féminin dès ce soir avec deux clubs français en quart de finale, le PSG et surtout l'OL qui va tenter de venger les garçons. Nous irons à Strasbourg pour suivre des dépistages du coronavirus spécial jeune et puis l'exploitant de la filière foie gras sur la Sellette dans le sud-ouest après la dernière vidéo choc de l'association L214. Et on fera le point sur vos conditions de circulation. En ce moment, c'est chargé sur les routes avec une journée rouge dans le sens des retours.
France Inter.
L'avion médicalisé s'est posé peu avant 9h du matin à l'aéroport Tegel de Berlin en provenance d'Omsk en Sibérie. À bord, Alexei Navalny, l'opposant russe toujours dans le coma depuis son malaise de jeudi dernier. Pour ses proches, c'est un empoisonnement. Ludovic Piétenu, bonjour.
Bonjour.
Correspondant permanent à Berlin pour France Inter. Alors, Alexei Navalny a aussitôt été pris en charge à l'hôpital de la Charité dans la capitale allemande. Cette destination, ce sont ses proches qui l'avaient demandé. Mais pourquoi justement, Ludovic, l'Allemagne ?
C'est l'ONG Cinema for Peace qui a entièrement pris en charge le coût de cet avion médicalisé. L'organisation est basée ici à Berlin. C'est donc en Allemagne qu'Alexei Navalny est désormais soigné. Pendant le vol, son état est resté stable. Ce transfert s'est donc bien passé selon cette ONG, confirme le producteur de cinéma et fondateur de cette organisation qui n'en est pas à sa première opération de sauvetage d'un opposant russe. Tout s'était passé dans les mêmes conditions, strictement, il y a 2 ans pour Peter Versi, un artiste proche des militantes punk des Pussy Riots. Victime d'un empoisonnement, l'homme était sorti guéri de cet hôpital berlinois en moins de 15 jours. Pour Navalny, une évaluation médicale approfondie est d'ores et déjà en cours, mais ses examens prendront du temps, préviennent les médecins. Ensuite, et seulement après avoir échangé avec la famille, la femme d'Alexei Navalny est à ses côtés, ils rendront public le diagnostic et les prochains traitements que l'opposant russe plongé dans le coma pourra, si c'est possible, recevoir.
Ludovic Piétenu en direct de Berlin pour France Inter. En France, Emmanuel Macron dénonce avec la plus grande fermeté un acte inqualifiable à propos des tags négationnistes découverts hier à Oradour-sur-Glane. Le mot martyr, barré à la peinture blanche, est remplacé par menteur dans ce village qui a vu le massacre de 642 habitants en juin 1944, en pleine Seconde Guerre mondiale. Dans un communiqué diffusé par l'Élysée ce matin, le chef de l'État promet que tout sera fait pour poursuivre les auteurs de ces inscriptions. La mairie d'Oradour va porter plainte. Autre communiqué de l'exécutif ce matin, cette fois signé Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui annonce, et je vous le disais en titre, le report de la présentation du plan de relance de l'économie post-coronavirus. Elle était prévue mardi, ce sera finalement la première semaine de septembre pour permettre au gouvernement de se consacrer à l'aspect sanitaire de la rentrée, indique le texte qui précise qu'un conseil de défense aura lieu mardi à la place. Et dans ce contexte, l'étrange déplacement de Jean Castex et Barbara Pompili dans la Somme ce matin. Le Premier ministre et la ministre de la Transition écologique ont visité la réserve naturelle de l'étang Saint-Ladre, près d'Amiens. On pensait que le gouvernement voulait se racheter une conduite verte après les couacs de cet été, les concessions sur les néonicotinoïdes pour sauver les betteraves, pour ne parler que de ça. La date concordait en plus avec le jour du dépassement de la Terre ce samedi. Vous le savez, l'humanité a consommé plus que ce que la planète peut lui offrir en un an. Cette année, grâce au confinement, entre guillemets, ce jour arrive 3 semaines plus tard qu'en 2019. Bref, il y avait des messages à faire passer. Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
Du service politique de France Inter, vous avez suivi cette visite du chef du gouvernement et on va plutôt parler d'une opération de communication bien orchestrée et surtout très très verrouillée, Laurence.
Tout à fait, clairement. Il s'agissait de refermer la parenthèse des couacs estivaux autour de l'écologie. Donc Barbara Pompili, la ministre, sur ses terres d'élection, elle ne parle plus ni chasse à la glu, ni pesticides tueurs d'abeilles, à quelques encablures pourtant des champs de betteraves de la Somme. Et là, devant l'étang de la réserve naturelle Saint-Ladre, le Premier ministre vante la cohabitation pacifique des défenseurs de l'environnement, des pêcheurs, des chasseurs et des touristes. L'écologie ne se fera pas contre l'économie, c'est le message asséné très ferme par Jean Castex.
On est parfois plus dans la posture, on est parfois plus dans l'excès, etc. Et on donne le sentiment à tort que ça ne peut pas se régler. Même si, je ne résiste pas à dire qu'il faut aussi des aiguillons. C'est pas mal aussi qu'il y ait des gens qui poussent, etc. Mais ce n'est pas l'homme contre la nature ou la nature contre l'homme. C'est ce qu'on appelle ces conflits d'usage. Ne pas les régler par le conflit, par la violence qui, et c'est extrêmement regrettable, progresse. Parfois, on n'est pas d'accord, on se bat. C'est pas possible. Ce n'est pas possible.
Jean Castex tourne les talons sans qu'il soit possible de lui poser une question. On apprend quelques minutes plus tard, vous l'avez dit, par communiquer le report d'une semaine du plan de relance. Là encore, interdiction d'interroger le Premier ministre.
En direct de la Somme, merci Laurence Perron et Olivia Branger pour les moyens techniques. Des mesures draconiennes pour la finale PSG-Bayern-Munich en Ligue des champions de football demain soir. Le match se déroulera à huis clos à Lisbonne. La foule, ce sera donc à Paris, en plein rebond de l'épidémie de coronavirus. 3000 policiers et gendarmes mobilisés, 2000 masques distribués autour de l'avenue des Champs-Élysées. La célèbre avenue parisienne qui sera d'ailleurs piétonnisée. C'est ce qu'a précisé tout à l'heure le préfet de police de Paris lors d'un point presse avec le ministre de l'Intérieur. Didier Lallement rappelle que ce genre de dispositif n'est mis en place qu'une fois dans l'année en général.
On ne le fait de façon exceptionnelle, ce dispositif, que le 31 décembre. On ne l'avait jamais fait en dehors du 31 décembre. On va le faire ici, toujours dans cette logique de respect de la pandémie. Et au-delà de ça, il y a bien sûr le travail de sécurisation et d'ordre public qui consistera pour nous, le long de la porte Maillot jusqu'au rond-point des Champs, à surveiller l'ensemble des commerces et des établissements pour éviter des tentations malheureuses de pillage. Je rappelle à l'ensemble de nos concitoyens qu'il est nécessaire de venir à pied ou en vélo éventuellement pour se réjouir, car les trois sorties du périphérique qui se donnent sur la porte Maillot seront fermées. 17 stations de métro seront fermées, toujours pour éviter qu'il y ait des affluences trop grandes qui se fassent sans ces contrôles-là.
Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, avec Ariane Gressel pour France Inter. Faites-vous tester à votre retour de vacances. Voilà le message martelé ces derniers jours et hier encore par la Direction Générale de la Santé, alors que la France enregistre pour la deuxième journée de suite plus de 4500 cas de contamination. On dénombre 430 foyers de contagion au total et 23 personnes sont mortes du Covid-19 hier. Les jeunes, on le sait, sont la priorité des autorités de santé. On compte 4 fois plus de cas chez les 20-29 ans que dans le reste de la population. Et s'ils ont moins de risques de souffrir ou de mourir du virus, ils peuvent le transmettre aux plus fragiles. Alors à Strasbourg, la mairie leur a dédié un centre de dépistage éphémère et gratuit en plein centre-ville, au plus près de la vie nocturne. Les horaires d'ailleurs sont adaptés de 18h à minuit, les vendredis et les samedis. Margot Turgis s'est rendue sur place pour France Bleu Alsace et France Inter.
Alors c'est un peu désagréable, mais ça fait pas mal.
Il y a une petite larme qui descend des yeux, c'est 2-3 secondes, pas très agréable.
Premier test pour Quentin, 26 ans, l'appel aux jeunes à se faire dépister, il approuve.
On a très vite oublié ce qui s'était passé là pendant plusieurs mois. Il y a beaucoup de relâchement, quoi, donc oui, je le comprends. Ouais.
Même s'il a fait attention cet été.
Pas de grosse fête, rien d'exubérant. Ouais. Après, je pense pas que je suis le modèle numéro 1, mais j'ai essayé en tout cas de respecter le plus possible.
Respecter les gestes barrières en vacances, pas facile. Résultat, depuis août, les cas explosent chez les jeunes dans le Bas-Rhin, Adeline Jenner de l'ARS Grand Est.
On avait 12 cas en semaine 30, 24 cas en semaine 31 et semaine 32, on s'est retrouvé avec 46 cas. Pour 100 000 habitants, évidemment, toujours.
Problème, la moitié de ces jeunes n'ont pas de symptômes. L'autre objectif de ce dépistage, éviter qu'ils contaminent leurs aînés et passer un message. Le virus et donc les tests, il va falloir vivre avec. Alexandre Feltz, en charge de la santé à la mairie de Strasbourg.
Chacun va devoir faire plusieurs fois le test. Hein. Mais tout ça, ça fait partie de la culture de ce rapport avec ce virus. Hein. Oui. C'est pas inné du tout. Hein. Je veux dire, il faut la pédagogie. L'éducation.
Pédagogie auprès des jeunes qui passent aussi par les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, TikTok. La mairie de Strasbourg va lancer une campagne de communication en septembre.
C'est l'effet L214. Les préfectures des Landes et des Pyrénées-Atlantiques font fermer toutes les exploitations de l'éleveur de canards de la filière foie gras, mise en cause dans une nouvelle vidéo choc publiée cette semaine par l'association de défense des animaux. L214 ne parlait que du site de Lichos, mais les services de l'État, eux, se sont rendus à Cassène, dans les Landes, et Frédéric Denis, ils ont constaté d'autres manquements graves.
Dans ce village, à 40 km au sud-ouest de Mont-de-Marsan, l'agriculteur visé par L214 élève 30 000 poulets et canards dans des conditions réglementaires selon les services vétérinaires. En revanche, en inspectant l'exploitation, il découvre un bâtiment non déclaré. Quand ils entrent, ils tombent sur une centaine de canards mâles reproducteurs dans des conditions d'hygiène déplorables selon le directeur de la protection des populations des Landes. Les canards sont enfermés dans des cages en mauvais état, susceptibles de les blesser. Il y a des déjections par terre, des problèmes d'évacuation de lisier. Il y a aussi des cadavres décomposés dans ce bâtiment fermé où la ventilation mécanique ne fonctionne pas. Il fait donc trop chaud à l'intérieur, même si les canards sont abreuvés et nourris. Les services vétérinaires vont donc saisir la justice pour d'éventuelles suites pénales. Ils ont également demandé l'évacuation des animaux et la remise en état de ce bâtiment que l'agriculteur devra déclarer. Le quadragénaire n'était pas présent lors du contrôle. Il pourra s'expliquer dans le cadre d'une procédure dite d'audition libre.
Des précisions signées Frédéric Denis de France Bleu Gascogne et la vidéo de L214 sur cet élevage de canards est à retrouver sur franceinter.fr. Sur notre site internet aussi, la suite de notre série sur les attentats de janvier 2015, le procès hors norme commence le 2 septembre. Et d'ici là, tous les jours, on vous raconte l'histoire de victimes, de familles, mais aussi le parcours des accusés, le travail des magistrats, des récits à hauteur d'homme avec de nombreux témoignages pour comprendre les enjeux de ce procès. Aujourd'hui, portrait de Philippe Honoré, l'un des piliers de Charlie Hebdo, et puis Patrick Klugman, l'avocat d'une dizaine d'otages de l'hypercachère. C'est sur franceinter.fr.
Le journal de 13h sur France Inter.
Le football au féminin ce soir, quart de finale de la Ligue des Champions. PSG, Arsenal d'un côté et surtout OL, Bayern de Munich de l'autre, avec un goût de revanche pour Lyon, Alexandre Vaux.
Après avoir donné rendez-vous aux joueurs des deux clubs en demi-finale mercredi soir, on le rappelle, l'OL a été éliminé par le Bayern Munich 3-0. Lyonnaises et munichoises se retrouvent-elles en quart de finale de la Ligue des Champions trois petits jours après et avec l'envie de venger ses couleurs pour l'attaquante des Gones, Delphine Cascarino.
Ça n'a pas été facile pour eux et maintenant à nous de faire en sorte de gagner contre le Bayern pour les venger.
Les Lyonnaises, 14 fois championnes de France, en lice pour une cinquième couronne européenne d'affilée, sont favorites ce soir et pas inquiètes du nouveau format de la compétition, qualification sur un match et à huis clos à cause du Covid. Assure leur entraîneur Jean-Luc Vasseur.
On doit être encore plus préparé à cette formule. Ça sera des finales à chaque fois. Et si on va aller au bout, il y en aura trois à remporter. Mais je trouve que c'est une formule assez passionnante et assez excitante. Le challenge aujourd'hui, c'est de garder cette équipe au plus haut. C'est pas facile et faut rester toujours sur ses gardes.
Et se méfier des Parisiennes, finalistes de la Ligue des Champions en 2015 et 2017 et potentiel adversaire en demi-finale mercredi, ce qui offrirait la certitude d'avoir une équipe française en finale dimanche 30 août après le Paris Saint-Germain chez les hommes demain.
OL, Bayern, PSG, Arsenal, deux quarts de finale à suivre ce soir à 20h pour la Ligue des Champions féminines. Chez les hommes, suite de la première journée de Ligue 1 avec Dijon-Angers à 17h, Lille-Rennes à 21h et puis reprise de la Ligue 2 aujourd'hui dès 15h. Toulouse reçoit Dunkerque. Et si vous préférez les salles obscures aux matchs de foot à la télé, écoutez le conseil de la semaine de Jacqueline Petro. C'est un film mexicain signé David Zonana, Mano de Obras, qui signifie main d'œuvre en français. Un ouvrier se tue sur le chantier d'une somptueuse villa en construction. Son frère ne digère pas l'indifférence du propriétaire et décide de se venger. Un long métrage, Jacqueline, qui explore inégalité sociale, cupidité et lutte de pouvoir.
C'est un besoin de justice qui anime au départ Francesco. L'opulence de la villa face aux conditions de vie des ouvriers est comme un gouffre. Alors quand sa belle-sœur Loupé, enceinte de 5 mois, lui dit que les experts assurent que son mari était sous lors de l'accident et qu'ils ne paieront rien, Francesco commence à préparer sa vengeance. Elle sera aussi froide que sa colère, surtout que Loupé s'est laissé mourir. Il s'installe subrepticement dans l'immense maison, puis officiellement quand le propriétaire disparaît. Francesco propose alors aux collègues et amis de le rejoindre. Chacun aura assez de place. Mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et dans cette petite société, la lutte pour le pouvoir prend le dessus. Francesco, devenu despote, est écarté. Il imagine à nouveau une cruelle vengeance. Mano de Obra est un premier film, parfaitement maîtrisé. David Zonana signe un film dur, social, sur la misère des ouvriers mexicains et l'arrogance des riches, mais aussi un film profond et troublant sur les utopies que la nature humaine finit toujours par corrompre.
Jacqueline Pétros, un week-end sous haute surveillance sur les routes. 40 000 policiers et gendarmes déployés sur tout le territoire ce samedi 22 août et classés rouge au niveau national dans le sens des retours de vacances. Orange pour les départs, déjà 646 km de bouchons cumulés à midi. Pierre-Antoine Lefort, vous êtes au PC Mobilité de Radio France et sans surprise Pierre-Antoine, ça coince en ce moment sur la 7.
Oui, dans le sens des retours depuis Orange jusqu'à Lyon, 3 heures, c'est le double d'habitude. Avec de gros coups de frein des Orange jusqu'à Piolenc, au niveau de Saint-Paul-Trois-Châteaux aussi, et entre Montélimar et Lorgueil-sur-Drôme. Dans le sens inverse, comptez là 2h30. C'est également bien compliqué entre Saint-Provence et Aix et sur la 8 jusqu'à Nice. Sur la 61 maintenant, là aussi trafic très chargé aujourd'hui dans les deux sens, entre Toulouse et Narbonne, particulièrement de Carcassonne jusqu'à Lézignan-Corbière sur une quarantaine de kilomètres. Enfin, sur la 10, si vous quittez la région parisienne, 5 km au ralenti avant le péage de Saint-Arnoult et à l'arrivée sur Bordeaux, sur environ 15 km, en direction de Paris. Cette fois, il faut 40 minutes de plus que d'habitude entre Saint-Aignore.
Merci Pierre-Antoine. Le temps avec Jean-Pierre Hameau de Météo France.
Ciel variable cet après-midi dans la plupart des régions, alternant les éclaircies et les passages nuageux. Prévoyez de courtes averses entre les Pays de Loire et la Bretagne et de la Normandie au Nord-Pas-de-Calais en passant par la région parisienne. L'ensoleillement restera généreux autour de la Grande Bleue. En contrepartie, Mistral et Tramontane vont souffler jusqu'à 60 km par heure. Côté température, on dépassera encore la barre des 30 degrés dans le sud. Comptez 31 à Perpignan, 33 à Bastia, 34 à Marseille et 35 à Nîmes. En revanche, nous allons apprécier la baisse des températures dans les autres régions. Les maximales évoluant entre 21 et 27 degrés. Dans le détail, prévoyez 21 degrés à Brest et Cherbourg, 23 à Lille, 24 à Rennes et Nantes, 25 à Orléans, Tours et Nancy. Comptez 26 dans la capitale comme à Dijon et Bordeaux. On ira jusqu'à 27 degrés à Strasbourg et Toulouse. Demain, on conservera un temps variable sur une grande partie du pays, avec quelques averses par moment. Le soleil fera de la résistance du Languedoc-Roussillon à la région PACA, en passant par la vallée du Rhône.